Si la deuxième année que nous recevons Annick Stevens, qui est professeur de philosophie. L'année dernière, elle nous a parlé de Castoriadis, et cette année, elle a choisi Nietzsche. Voilà, alors il y a, vous avez à peu près tout le monde a des papiers, donc vous savez qu'il va y avoir 10 séances. Il y aura peut-être un mercredi où ça, on sautera, parce qu'il y a un spectacle dans le théâtre, donc ce jour-là, on ne va pas cumuler qu'il y ait une tendance à un spectacle et un cours de genoux. Donc je ne vais pas m'étendre longtemps, on va écouter Annie qui va nous parler de ce qu'il vous offre. Je crois qu'il a été récupéré, madame, pas un mot, elle nous dira tout ça. Voilà, à bientôt, à tout de suite.
Comme le dit Francis, Nietzsche, c'est un philosophe qui est particulièrement en même temps connu et méconnu. Connu parce que tout le monde connaît son nom, tout le monde y associe certaines idées générales, hein, critique de la métaphysique, généalogie de la morale, l'idée que toute morale est une volonté de pouvoir, d'une certaine manière, cache d'une certaine manière une volonté de pouvoir. Tout le monde connaît quelques concepts nietzschéens comme le dionysiaque, la volonté de puissance, la notion de surhomme. Et en même temps, il est très méconnu. Pourquoi ? Parce que justement, ces concepts, on les a abondamment déformés. On a lié à ces concepts des idées qui n'étaient pas celles de Nietzsche au départ. Et cette déformation a eu lieu surtout par des milieux d'extrême droite. En France, par l'Action française, en Allemagne, ben, par les théoriciens nazis, notamment un certain Alfred Böhler. Et elle a été permise notamment par des manipulations de l'œuvre écrite de Nietzsche lui-même, c'est-à-dire qu'à titre posthume, il a été publié une œuvre qui s'appelle La volonté de puissance, qui s'intitule La volonté de puissance, œuvre que Nietzsche n'a jamais écrite, qui a été une reconstitution faite notamment par sa sœur. Épouse d'un antisémite notoire, une reconstitution à partir de notes que Nietzsche avait faites dans des carnets, qui ne le destinaient probablement pas à la publication ou certainement pas sous cette forme, et donc qui ont été avec des recollages de morceaux, des modifications, enfin bref, selon une présentation que Nietzsche n'aurait pas publiée. Bon, je vous reparlerai de ça parce que ça fait partie plutôt de la fin de l'œuvre de Nietzsche, la notion de volonté de puissance, et puis tous ses écrits posthumes et ce qu'on en a fait. Mais il faut savoir que c'est important qu'une bonne partie des associations de Nietzsche avec des thèmes d'extrême droite est complètement abusive. Elle n'existe pas dans son œuvre. Alors sur son antisémitisme, on reviendra, je vous montrerai que c'est extrêmement simple de voir que Nietzsche n'était pas du tout un antisémite, que tout ce qu'il a dit contre la religion judéo-chrétienne, il le dit vraiment en tant que c'est un certain type de religion, et qu'au contraire, il a à plusieurs reprises fait l'éloge des juifs de son époque, comme justement de une tradition particulièrement attachée à la culture et qui produisait à son époque les plus grands artistes et les plus grands intellectuels. Il l'a parfaitement reconnu. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour introduire un petit peu sur cette récupération de Nietzsche, mais la récupération n'a pas été que négative, et c'est important aussi de savoir que des artistes et des intellectuels se sont intéressés à Nietzsche pour d'autres raisons que politiques. Et d'abord, justement, il a eu un certain succès en France par l'intermédiaire des milieux artistiques. Par exemple, André Gide a écrit « L'immoraliste » en référence au thème nietzschéen de l'immoralisme. Paul Valéry était très intéressé aussi par Nietzsche. Ce sont eux deux qui l'ont sans doute le mieux fait connaître au début du XXe siècle en France. Ensuite, il y a un groupe d'intellectuels de diverses disciplines qui se sont emparés aussi des concepts nietzschéens, et on a fait quelque chose de personnel. C'est le groupe qui s'appelait dans les années 30 le Collège de sociologie et qui réunissait notamment Georges Bataille Michel Léris, Roger Kaywa. Donc c'est un groupe qui était à la fois composé d'ethnologues, d'anthropologues, de psychanalystes et de philosophes, d'écrivains littéraires, et qui tentait de faire des études justement au carrefour de ces disciplines, qui avait aussi d'ailleurs une activité, une réflexion politique, à la fois à l'époque, dans les années 30, contre la montée du nazisme, contre la montée du stalinisme, et contre l'éternelle médiocrité de la démocratie libérale. Donc ils avaient fort à faire, et on peut dire que Georges Bataille a sans doute été l'un des écrivains du XXe siècle qui a le plus correspondu à ce que Nietzsche appelait de ses voeux comme un art dionysiaque. Alors l'art dionysiaque, je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine, parce que c'est surtout dans La naissance de la tragédie que Nietzsche a évoqué, enfin, a forgé cette expression et ce concept. Et je reporte ça pour la semaine prochaine, où il y a tout un développement à faire sur l'héritage grec chez Nietzsche qui est très important. Mais on peut déjà dire que pourquoi Georges Bataille a été particulièrement un héritier du côté dionysiaque de Nietzsche. Je vais vous citer un petit extrait d'une œuvre de Bataille où apparaît ce qu'on peut dire vraiment un cocktail dionysiaque, c'est-à-dire, et qui était tout à fait caractéristique de l'œuvre de Bataille, un mélange de refus de tout conformisme et de toute convention sociale, un désir de libérer totalement l'homme de tous ses carcans, de toute la pauvreté, l'appauvrissement qu'oppose le fonctionnalisme, l'utilitarisme social à chaque individu, et alors, ce qui est aussi typiquement propre à Bataille, un mélange d'érotisme, de fascination pour la souffrance et la mort. Et ça, c'est très dionysiaque. Alors, c'est pas, on verra quelle place ça peut avoir dans les thématiques nietzschéennes, mais en tout cas, c'est typiquement dionysiaque de comprendre que souffrance, mort, naissance, érotisme, devenir, tout ça ne forme qu'un seul mouvement, et que ce mouvement, il faut dire oui, il faut l'affirmer. Hein. C'est une des belles théories de Nietzsche. Alors Bataille, comment est-ce qu'il reprend ça? Il dit qu'à propos d'un passage de Zarathoustra, d'Ainsi parlait Zarathoustra, où Nietzsche parle de sauter au-dessus de soi-même, Bataille ajoute: il faut être un pont, mais jamais un but. Ceci demande une vie arrachée aux normes, avec une puissance étroite, serrée, volontaire, n'acceptant plus à la fin d'être détournée d'un rêve. Hein, donc, arrachée aux normes. Avoir une puissance étroite et serrée, ça veut dire que c'est un effort de volonté difficile. Hein. Il y a toute cette notion d'effort qui revient sans cesse sous la plume nietzschéenne et qui est reprise ici. Et il ajoute, ben, toujours Bataille, que l'homme qui ferait ce saut, cette sorte d'homme différerait de l'homme actuel qui se confond d'habitude avec une fonction, c'est-à-dire une partie seulement du possible humain. Ce serait en un mot l'homme entier, libéré des servitudes qui nous limitent. Voilà en quoi un héritage de Nietzsche tout à fait flagrant a pu susciter toute une vocation littéraire chez Bataille. Enfin, il y a eu une troisième vague d'intérêt pour Nietzsche au XXe siècle, où il faut parler, parce que là aussi on en a une connaissance très répandue, mais en même temps assez superficielle, c'est la pensée des années 60-70, et cette fois nettement plus chez les philosophes, et plus seulement chez, disons, les écrivains ou les artistes. Les trois philosophes les plus connus qui se sont réclamés de l'héritage de Nietzsche dans les années 60-70, on sait bien qui c'est Deleuze, Foucault, Derrida. Ils sont tous les trois emparés de la pensée nietzschéenne d'une manière très personnelle et très différente entre eux. Deleuze, je vous en parlerai un petit peu plus aussi au moment où on verra les œuvres de la fin de la vie de Nietzsche, parce que c'est surtout sur les concepts de cette période-là que Deleuze s'est concentré, notamment le concept de force. Toute l'œuvre de Deleuze sur Nietzsche tourne autour du concept de force, force active, réactive, avec y compris leur implication politique. Qu'est-ce que c'est être une force active politiquement ou une force réactive? Je vous en reparlerai un petit peu. Je souligne simplement que l'œuvre de Deleuze, aussi bien à propos de Nietzsche qu'en général, c'est une œuvre philosophique difficile. Contrairement à ce qu'on en entend parfois dire de manière très légère, donc, M. était sous forme un peu de slogan ou de vérité facile, presque dogmatique. L'œuvre de Deleuze, elle est vraiment philosophiquement difficile. Et il ne suffit pas de dire qu'il y a une certaine... qu'il remplace la philosophie de la substance par une philosophie des rapports de force. Bon, il ne suffit pas de dire ça de cette manière-là. Il y a tout un fond et bon, je pourrais peut-être en dire un petit mot à la fin. Alors, Foucault, c'est très différent. Foucault, on sait bien qu'il a repris l'idée de philosophe du soupçon que Nietzsche avait avancé lui-même, que Nietzsche assumait tout à fait. Hein. Nietzsche a écrit « On me dit que je suis un philosophe du soupçon et je l'accepte parfaitement. » Parce que c'est lié à sa généalogie de la morale. Toute sa méthode généalogique est une méthode du soupçon. Alors, c'est-à-dire que c'est une investigation de la psychologie de la personne qui tient un certain discours pour comprendre pourquoi elle tient ce discours. Quelles sont ses motivations profondes pour tenir ce discours, et en particulier le discours philosophique. Pour Nietzsche, tout philosophe qui propose un certain système le fait pour une raison qui est avant tout personnelle. Il a avant tout besoin de ce système. Il a avant tout envie que ce soit vrai, besoin que ce soit vrai. Bon, on va voir ça plus en détail quand on abordera justement l'œuvre qui s'appelle « Généalogie de la morale ». Foucault applique cette expression « philosophe du soupçon » non seulement à Nietzsche, pour la raison parfaitement explicite qu'il a avancée, mais aussi à Marx et à Freud. Marx ayant appliqué ce même soupçon, alors non plus cette fois à des motivations d'ordre moral, religieux, de contrôle social, mais pour des raisons d'origine, de classe. Donc en fait, le discours que tient quelqu'un est forcément révélateur de son origine de classe. Et à Freud, bah là évidemment, le discours que tient quelqu'un est forcément révélateur de son inconscient, et en particulier de cette part de l'inconscient qui concerne sa sexualité. Parce qu'il ne suffit pas de dire l'inconscient, hein. À l'époque de Nietzsche, tout le monde parle de l'inconscient. Ce n'est pas du tout un concept inventé par Freud, même qui était pour la première fois vraiment théorisé par Freud, loin de là. Mais donc c'est plus en rapport avec la sexualité. Donc Foucault répand donc de manière très large, je dirais y compris dans le grand public, cette idée qu'on a trois grandes figures du soupçon, et de cette manière-là, il fait un peu plus connaître Nietzsche. Et d'autre part, Foucault, sans aucun doute, s'est inscrit dans la tradition de la généalogie, puisque lui-même aussi développe à son tour, et d'une manière qui lui est propre, une méthode généalogique en essayant de retracer l'origine à la fois historique et psychologique de certains comportements. Notamment chez Foucault, ce sera le comportement de l'aveu ou de la confession, hein, ou ce sera les attitudes ascétiques, l'attitude de... des premiers chrétiens avec toutes ces... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, dans la mesure où, encore une fois, c'est quelque chose. Il le fait d'une manière tout à fait personnelle, et on peut dire en ce sens qu'il est doublement nietzschéen, puisque Nietzsche n'aurait jamais voulu qu'on l'imite. Il n'aurait jamais voulu, il disait qu'il ne voulait absolument pas de disciples, que la philosophie ne pouvait pas être une répétition ni même un prolongement de ce qu'avait dit quelqu'un d'autre, que la philosophie c'est une création. Et que donc, être nietzschéen, c'est évidemment dire tout autre chose que ce que dit Nietzsche. C'est évidemment intéressant. Et enfin, Derrida est sans doute celui qui est le plus éloigné de la source originale, parce qu'il s'est surtout intéressé chez Nietzsche au style, au travail sur le style. Et de fait, Nietzsche a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire le fait d'avoir développé des expressions diverses de la pensée philosophique. Et il y a un ouvrage de Derrida qui s'appelle « Éperons les styles de Nietzsche » qui en fait part effectivement de l'importance du style dans l'expression d'une pensée, mais en même temps s'éloigne très très vite de Nietzsche et part sur des considérations que personnellement je ne trouve pas extrêmement intéressantes et que en tout cas dont en tout cas je peux dire qu'elles n'ont plus grand chose à voir avec Nietzsche au départ. Il n'empêche que c'est en réaction à ces trois auteurs-là qu'on a, disons, mis dans le même panier, que dans les années 80, il y a une sorte de retour et d'inversion, de retour de valeur et d'inversion, avec l'affirmation partant des philosophes Luc Ferry et Alain Renaud, avec l'affirmation « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens ?» C'est le titre d'un volume paru en 1993, et avant ça, ils avaient écrit leur fameuse « Pensée 68 », leur critique de la pensée 68, dans lesquelles ils considéraient ces trois grandes figures intellectuelles comme la quintessence de la pensée 68. Et quelle est leur critique principale contre ce nietzschéisme, le fait d'être nietzschéen? Eh bien, c'est une critique dont on se rend compte qu'elle ne concerne pas l'œuvre de Nietzsche elle-même, elle concerne précisément ce qu'on en a fait dans les années 60-70. Et même pas tellement ce qu'on en a fait au sens vraiment conceptuel, c'est-à-dire ce que, par exemple, Deleuze en a fait dans son livre sur Nietzsche, mais plutôt la manière dont elle a été à un certain moment, elle a régné à un certain moment sur le monde intellectuel français. Ils disent qu'il était impossible de tenir un discours sans qu'on vous demande immédiatement « Pourquoi est-ce que tu tiens ce discours? Qu'est-ce que tu caches derrière ?» Bref, l'application du soupçon. Ils disent que ça, c'était infernal et qu'eux, ils estimaient qu'un discours devait être analysé pour son contenu et non pas pour la position de celui qui l'énonçait, ce que Nietzsche aurait tout à fait approuvé, par ailleurs. Donc, ceci, simplement pour vous montrer pourquoi on parle tellement de Nietzsche et pourquoi on en parle tellement peu, en fin de compte, tellement peu de son œuvre elle-même. Son œuvre elle-même, alors, je vous ai préparé un papier reprenant, je vais vous demander de le faire passer, donc il y a une feuille recto verso, je vais vous demander de faire passer ça. Cette feuille est simplement un aide-mémoire dans laquelle vous trouverez les œuvres de Nietzsche, donc la liste des œuvres de Nietzsche dans leur ordre chronologique, une bibliographie sélective, c'est-à-dire une série d'ouvrages que je recommande, entre guillemets, c'est-à-dire dont je trouve qu'ils éclairent bien un aspect de l'œuvre de Nietzsche, et chaque fois j'ai un idée en quoi. Quel type d'aspect, quel genre de choses vous apportez par rapport à la connaissance de cette œuvre? Quelques repères biographiques, donc quelques repères dans la vie de Nietzsche qui sont importants pour comprendre l'évolution de son œuvre. Et quelques éditions, je vous signale quelques éditions en français, donc en traduction française, où vous pouvez trouver Nietzsche. Alors chaque fois que je vais me référer à Nietzsche, j'utiliserai la collection Lafond, alors j'ai oublié de prendre le livre avec moi aujourd'hui, bon. La collection Lafond, donc dont vous avez les coordonnées, les références sur ce papier. Alors, est-ce que je pourrais en avoir un change? Merci. Je vais rapidement parcourir avec vous la chronologie de ces œuvres, parce que ça me permettra de vous annoncer en quelque sorte le programme des séances suivantes en même temps. Donc rapidement, ses premières œuvres qu'il écrit quand il a 25 ans à peu près, elles n'ont pas été tout de suite publiées. Elles ont été publiées seulement lors de l'édition de son œuvre complète posthume, à titre posthume. Mais en fait, elles préparent et elles sont reprises en grande partie par La naissance de la tragédie. Donc sa première œuvre publiée par lui, c'est La naissance de la tragédie, en 1872, et il récupère une bonne partie du matériel qu'il avait fait à titre de conférence ou de petites brochures précédemment. Je vous en parle la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il publie en quatre fois des considérations inactuelles. Il y a quatre considérations séparées, donc de 73 à 76. Et ça, je vous en parlerai, c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Et puis, on passe à ce qu'on a appelé, à juste titre, je pense, la deuxième partie de son œuvre. Il y a vraiment à ce moment-là, non pas une rupture, parce qu'il y a une continuité parfaite dans le type de pensée et le type de problématique abordée, mais il y a quelque chose d'une influence nouvelle, un ressort nouveau, un intérêt nouveau qui se fait jour dans la pensée de Nietzsche, et commence à ce qu'il appelle lui-même, d'ailleurs, une nouvelle période, avec Humain trop humain, une période qui est particulièrement marquée par le rationalisme. Nietzsche redécouvre les Lumières, et ce sont les philosophes des Lumières qui l'intéressent le plus, avec vraiment une revendication de la raison. De la raison. Alors on va voir comment, parce que d'un autre côté, on a souvent cette idée, disons, un peu, qui s'est un peu diffusée généralement, que Nietzsche est plutôt quelqu'un qui refuse la raison. Eh bien, pas du tout. Et ça ne le quittera pas, même si progressivement, il y insiste moins. Même si c'est à ce moment-là qu'il insiste plus, mais on verra aussi ce qu'il appelle un usage de la raison. C'est évidemment pas une raison étroite, limitée à une logique étriquée. On s'en doute. De cette même période, donc, date un deuxième volume du Humain trop humain, qui s'appelle Opinion et sentence mêlées, et puis Le voyage à son ombre. Il y a aussi Aurore, et on peut dire que Le gai savoir est une nouvelle transition vers la troisième partie de son œuvre. Une nouvelle transition parce que il y a à nouveau un type de création nouveau qui n'existait pas précédemment, et c'est surtout l'introduction de ces concepts les plus connus, tels que l'éternel retour, le surhomme, qui culmine, à mon sens, avec son ouvrage le plus abouti, qui est Ainsi parlait Zarathoustra. Ouvrage le plus abouti parce que non seulement c'est un condensé de toutes les thématiques qu'il a abordées dans sa vie, et parce qu'il le présente d'une manière littéraire, d'une beauté et d'un accomplissement absolument extraordinaire. C'est une œuvre splendide, à tous les points de vue. Bon, après ça, vous avez encore quelques titres qui se concentrent sur les dernières années de sa vie, qui ne propose pas de thématiques nouvelles, mais apporte de nouvelles argumentations sur des thématiques déjà abordées. Et finalement, il y a un peu le mystère de sa folie finale, dont je vous dis quand même deux mots. Nietzsche, à la fin de l'année 88, le dernier trimestre de l'année 88 est une période très fructueuse pour lui. Il écrit énormément, vous voyez qu'il y a 4 œuvres qui paraissent cette année-là. Et il écrit notamment Ecce Homo, qui est une autobiographie. Donc il retrace par là ce qu'il est devenu et il explique comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et il l'explique d'une manière, à première vue, incroyablement prétentieuse. On se demande si c'est du second degré, si c'est ironique, je vous donne quelques exemples de titres de chapitres. C'est pourquoi j'ai écrit de si bons livres, pourquoi je suis un destin. Donc, je pense qu'il est le destin de l'Europe, etc. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette autobiographie, on sait qu'il a enjolivé certains détails, notamment dans son origine généalogique, dans ses origines familiales. Pour le reste, il y a beaucoup de choses très intéressantes, puisque c'est toujours intéressant quand un philosophe se penche sur le reste de son œuvre et se demande avec quoi il est encore en accord, qu'est-ce qui lui semble le plus important introspectivement dans ce qu'il a dit, etc. Donc, ce n'est pas du tout inintéressant, loin de là. Mais il n'empêche qu'on sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans son attitude. Et à la fin, tout à fait à la fin de cette année, fin décembre, il écrit à de nombreux amis, de nombreuses personnes avec qui il était régulièrement en correspondance, il leur écrit des lettres qui sont complètement délirantes. Et qui sont vraiment délirantes, c'est-à-dire qu'il prétend qu'il est en train de préparer l'assassinat de l'empereur d'Allemagne. C'est n'importe quoi. À tel point que son meilleur ami, son ami le plus fidèle, qui est un peu plus âgé que lui, un peu protecteur, Franz Oberbeck, se précipite chez lui à Turin. Il logeait à ce moment-là à Turin. Et le découvre écroulé, effondré, incapable, presque incapable de parler. Nietzsche s'effondre en pleurant dans ses bras. Il est en partie paralysé. Oberbeck le conduit à la clinique psychiatrique de Bâle. Nietzsche, il récupère une partie de ses facultés, c'est-à-dire il récupère complètement de sa paralysie. Il récupère sa conscience du présent. Il accepte pendant plusieurs mois de parler avec Franz Oberbeck, de lui parler du passé, de parler de son œuvre passée, mais il est absolument incapable d'envisager une quelconque projection sur l'avenir, incapable de se proposer encore une continuation de son œuvre. Et puis cette conscience qu'il a retrouvée décline à nouveau et il tombe dans un état à peu près végétatif. il termine sa vie, il vit encore 10 ans comme ça, dans un état complètement végétatif. Alors, on a essayé d'expliquer cette folie par une raison simplement médicale, à savoir la syphilis. Vous avez dû entendre cette hypothèse. C'est une hypothèse que je pense très peu probable, parce que on a tout le détail par sa correspondance, on a tout le détail de ses visites à de très nombreux médecins, parce qu'il faut savoir que Nietzsche souffre depuis l'adolescence de terribles maux de tête, accompagnés de nausées, accompagnés de troubles oculaires qui l'ont terriblement handicapé durant toute sa vie, mais ça commence dès l'adolescence. Il a consulté donc énormément de médecins, a suivi des tas de traitements, des tas de cures, et dans aucun diagnostic et aucun traitement proposé, on ne retrouve ce qu'on proposait à l'époque aux syphilitiques. Donc, je pense que ce n'est pas probable. D'autre part, toujours le même Overbeck, ce ami très fidèle, a écrit un petit livre, il se trouve dans la bibliographie que je vous ai donnée, a écrit un petit livre sur ses souvenirs de Nietzsche. Un livre très très sobre, très beau parce que très très sobre dans son métier, où il fait une hypothèse, il ne dit pas que c'est plus qu'une hypothèse, sur la raison pour laquelle Nietzsche a sombré dans la folie. Et cette hypothèse, c'est justement, elle correspond à toute la vie philosophique de Nietzsche. C'est une hypothèse qui est dans la continuité de la vie philosophique, c'est-à-dire c'est l'effondrement dans la folie est la conséquence logique de l'exigence insupportable que Nietzsche s'imposait à lui-même. Overbeck dit, avec une telle exigence de probité, d'honnêteté sur soi-même, d'investigation constante sur soi-même, à laquelle s'ajoute une terrible solitude, Nietzsche ne pouvait que s'effondrer dans la folie. Et il y a un petit passage où Nietzsche parle de l'amitié, où il dit à quel point il est nécessaire d'avoir un ami, parce que si on ne peut dialoguer qu'avec soi-même, à un certain moment, on tombe dans l'abîme de ses propres pensées. Cette idée de chute dans l'abîme, en raison d'un dialogue uniquement avec soi-même, il l'avait senti comme un danger. Il n'a pas pu échapper à ce danger, pourtant il avait des amis, mais même ses amis, il en supportait assez peu la compagnie, c'est un homme extrêmement solitaire, barbu. Et surtout, vous verrez que, en fait, il allait tellement loin dans l'application personnelle, existentielle de ses propres pensées, que personne ne pouvait le suivre aussi loin. Il ne vivait pas une vie d'homme ordinaire, il vivait une vie de saint, d'ermite, hein, de saint sans religion, mais tout de même. Il ne vivait pas une vie ordinaire. Et il a défendu théoriquement cette idée qu'un philosophe ne peut pas vivre une vie ordinaire, que c'est nécessaire à la philosophie, que si on veut être un vrai philosophe, si on veut vraiment créer, on ne peut pas être pris dans les préoccupations de l'homme ordinaire. Par conséquent, il se sentait constamment en porte-à-faux avec les autres personnes, y compris avec les plus grands intellectuels qu'il fréquentait, parce qu'il avait des amis qui étaient des grands intellectuels. Overbeck était un grand historien des religions, dont il a beaucoup d'ailleurs appris. Il avait pour ami aussi Paul Deussen, qui était l'un des premiers traducteurs de la philosophie hindoue et l'un des plus grands connaisseurs de cette philosophie. Il avait pour ami des philologues grecs, puisque lui-même avait pour première formation la philologie grecque. Il avait pour ami des grands artistes, notamment un compositeur et musicien qui d'ailleurs collabora ensuite à l'édition de ses œuvres complètes. Bref, c'est pas ce qui lui manquait, la stimulation intellectuelle et artistique. Mais personne ne le suivait jusqu'au bout. Et cette solitude dans une exigence poussée à l'extrême, il est normal d'une certaine manière qu'elle côtoie la foi. Donc voilà pour l'hypothèse peut-être de la fin de la vie de Nietzsche. Juste pour peut-être les quelques jalons importants de sa vie qu'il faut signaler. Alors, il faut absolument éviter de toujours, quand on envisage la vie d'un grand créateur, ce qu'on peut appeler ironiquement la morale du palais de chambre. Donc, c'est-à-dire le fait d'essayer d'éclairer une œuvre par des petits détails de la vie privée, ou au contraire même de faire l'impasse sur l'œuvre pour ne plus s'intéresser qu'aux petits détails de la vie privée, et qui évidemment n'ont aucun intérêt si ce n'est une sorte de voyeurisme et aussi de dépréciation de la personne, parce que tout le monde évidemment dans sa vie privée a sans doute des travers que ne voit que le valet de chambre et qui évidemment, ne donne absolument aucunement la mesure de ce qui a été créé par ailleurs. Donc, c'est absolument pas ça que je veux faire, mais étant donné que pour Nietzsche, la vie se confondait complètement avec la pensée, étant donné que pour lui, on ne pouvait mener qu'une existence en totale conformité avec son pensée, il est logique que ses choix de vie aient correspondu à ses exigences philosophiques. Donc, c'est intéressant de voir quels ont été ses choix de vie. Et par ailleurs, les événements survenus dans sa vie ont aussi immédiatement un impact sur sa philosophie. Donc, pour la même raison, qu'il y a une liaison absolument indissociable entre les deux. Donc, juste quelques événements qui ont été importants, probablement pour sa pensée. Il a perdu son père très tôt. Alors, il y a un traducteur et commentateur de Nietzsche qui s'appelle Pierre Klosowski, qui a particulièrement insisté sur cet aspect psychanalytique de l'interprétation de Nietzsche, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a représenté pour lui, la perte du père précoce, et en quoi, comment se fait-il que dans Ecce Homo, dans son autobiographie, il reparle de ce père avec probablement une interprétation très, très fictive de ce qu'a été son père. Donc effectivement, il y a probablement là une première influence, quel que soit le rôle qu'on lui donne dans la vie du jeune Nietzsche. Ensuite, il y a cette terrible maladie. Cette terrible maladie, sans aucun doute, ça l'a assez vite mis à part. Et ça l'a assez vite fait réfléchir sur des questions qu'on ne se pose généralement pas trop à l'adolescence. La mort, la souffrance, il a été très vite confronté à ça. Alors, bon, ces études, ce sont des études d'abord de lycéens passionnés par l'histoire, par la musique, par les arts en général, ensuite d'étudiants à l'université, donc qui choisit pour études les lettres classiques, la connaissance de l'Antiquité classique, et il se met tout de suite à faire des études sur, des études pour publications spécialisées, donc sur, alors c'est pas anodin non plus, sur deux auteurs grecs en particulier, l'un qui est un poète aristocratique, et vous savez bien que Nietzsche est connu pour son aristocratisme, j'en reparlerai bien sûr, parce que ses positions politiques, si elles ne sont pas d'extrême droite, elles ne sont pas franchement de gauche non plus, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut voir ce qu'il entend justement par cet aristocratisme, et comment en fait il en fait plutôt une exigence éthique de noblesse du caractère, plutôt que ce qu'on entend par une domination sociale d'une classe aristocratique sur une autre. Donc il est influencé par l'aristocratisme grec, et d'autre part, il fait aussi des études sur les sources des philosophes présocratiques, et il étudie tout particulièrement les philosophes présocratiques, dont il va garder l'influence toute sa vie. Dans La naissance de la tragédie, il y a une grande présence de certains philosophes présocratiques, en particulier Héraclite. La notion de devenir est une notion, on le sait, héraclitéenne. Le fait d'avoir une compréhension de la totalité de l'univers comme devenir est assez héraclitéenne. Donc on verra ça aussi la semaine prochaine. Donc voilà pour les influences dues à ces études. Et grâce à ces publications savantes, il obtient un poste à l'université de Bâle. Donc il passe d'Allemagne en Suisse. Et il n'a pas besoin de faire de thèse de doctorat. Il est admis très tôt sur travaux, simplement sur ses travaux. Et à l'âge de 24 ans, il se retrouve déjà professeur. Mais il se fait que... Alors, probablement, il n'a pas beaucoup aimé cette position de professeur. Et de fait, il critique aussi de manière théorique et générale le fait de philosopher, selon ses propres expressions, à heure fixe, devant un auditoire qui est imposé, comme si on pouvait décider qu'on pense de telle à telle heure et qu'on confie, dit-il, ses pensées les plus secrètes, parce que c'est important la pensée philosophique pour lui, pour une fois ça révèle un monde, donc ses pensées les plus secrètes à un auditoire dont on ne sait même pas à qui on s'adresse en fait. Donc il n'a pas aimé l'enseignement, c'est une chose certaine, mais c'est pas ça qui a fait qu'il y est resté peu de temps, c'est encore une fois la maladie. Alors ça a été en même temps évidemment un terrible désavantage, mais en même temps ça a été d'une certaine manière un avantage pour lui, parce que après quelques années, il a pu obtenir un congé pour maladie, d'abord temporaire, et puis un congé définitif de l'université, avec une petite pension, une petite allocation qui lui était versée par l'université elle-même et qui lui a permis de vivre jusqu'à la fin de sa vie, enfin, jusqu'à la fin de sa vie consciente, sans plus avoir d'obligation. Alors à partir de là, il s'est mis à voyager. Très vite, il a détesté l'Allemagne. Il n'y retournait que vraiment par obligation pour aller voir sa mère, mais il détestait l'Allemagne, il détestait la culture et l'esprit allemand. Il voyageait entre la Suisse et l'Italie, et parfois un petit peu la Côte d'Azur. La Suisse en été, alors vous savez peut-être qu'il avait une conception, encore une fois, de l'influence très importante du lieu dans lequel on se trouvait sur les capacités de pensée. Il estimait que, voilà, il faisait vraiment une comparaison entre la pensée élevée et le fait de se trouver dans les montagnes les plus hautes de Suisse. Il sentait vraiment là que sa pensée prenait toute son ampleur, tout son envol, toute sa grandeur. Bon, l'hiver, par contre, il redescendait de Suisse et il allait s'établir dans le nord de l'Italie, sur le bord de la Méditerranée. Voilà. Mais manifestement, il y a eu aussi de belles inspirations, donc il y a aussi de très belles pages sur la mer, sur l'influence de la mer et de la montagne. Donc voilà comment il passe sa vie. Et alors, un événement important de sa vie se situe en 1882. Il avait déjà rencontré, depuis quelques années, il fréquentait un médecin qui s'appelle Paul Ré, mais qui n'exerçait pas la médecine, parce que c'était quelqu'un qui vivait de ses rentes, et qui s'était spécialisé dans la psychologie des sentiments moraux. Et quelqu'un qui essayait de chercher l'origine des sentiments moraux, qui a d'ailleurs publié des ouvrages sur ce thème. Et ça fait partie d'ailleurs du tournant vers la deuxième période de Nietzsche, la rencontre de cette thématique-là, hein, chercher l'origine des sentiments moraux. D'où vient la morale? Comment se dit? D'où vient, par exemple, l'attitude égoïste ou altruiste? Est-ce que ça vient de la nature? Est-ce que ça vient de... comment ça nous est venu? C'est une étude qui implique à la fois une recherche historique, c'est-à-dire essayer de voir chez les différentes civilisations qui se sont succédées l'importance qu'on donnait à telle ou telle attitude morale, et en même temps tout un aspect psychologique, c'est-à-dire pourquoi l'être humain a besoin de ça? Pourquoi il a besoin toujours d'instituer des morales contraignantes, des religions ascétiques? Ça a été une des grandes recherches constantes pendant toute sa vie. Donc cette recherche, elle est stimulée en grande partie par la rencontre de ce Paul Ré. Et en 1882, c'est par Paul Ré que Nietzsche rencontre Lou Salomé. Lou Salomé, qui est une jeune fille russe, qui voyage avec sa mère, comme beaucoup de Russes faisaient, voyager dans les villes européennes, soit dans les capitales, soit dans les villes d'eau, où on rencontrait le monde, où on rencontrait le grand monde, le monde qui s'intéressait aux arts, aux questions. Question de l'esprit, voilà, à toutes les choses de l'esprit. Et Nietzsche est fasciné par cette jeune fille, tout de suite il est fasciné par cette jeune fille, parce qu'elle n'a rien à voir avec les jeunes filles contemporaines, elle n'a rien à voir avec la culture que l'on donne aux jeunes filles, avec l'éducation qu'on donne aux jeunes filles à cette époque. C'est une jeune fille complètement non conventionnelle, qui a la même fascination que lui pour les sciences, pour la psychologie, pour la recherche généalogique de la morale. Bref, c'est une jeune fille qui ne demande qu'à poursuivre les mêmes recherches avec Nietzsche et avec Paul Ré. Et donc, ils décident de former un trio qui va se lancer dans la recherche scientifique, ils le disent eux-mêmes, ils appellent ça une recherche scientifique et psychologique de la morale, de la religion, de toutes les attitudes, de tous les comportements, de toutes les institutions sociales. L'été 82 se passe donc sur cette extraordinaire exaltation de tous les trois. Ils ont le projet d'aller vivre ensemble à Paris, parce qu'à Paris, ils veulent suivre des cours de sciences. Ils veulent en savoir plus, bon, ils sont très naturalistes à cette époque, très physiologistes. Et puis il se passe quelque chose, une brouille extrêmement rapide dans ce trio, due très probablement en grande partie par l'entourage de Nietzsche, en particulier par sa sœur qui commence à lancer son venin, parce qu'elle déteste cette loup, et qui joue un rôle vraiment de zizanie dans le trio. Alors, il faut voir aussi une influence, en fait, d'un entourage beaucoup plus large, c'est-à-dire que tous leurs amis, tous les amis qu'ils fréquentaient, c'est encore... On est dans une époque où c'est dans les salons des nobles qu'on se rencontre encore. Hein. Donc, tous ces amis-là, désapprouvent leur projet pour des raisons de mœurs. Ils sont choqués, comme si c'était quelque chose qui allait tourner à la vie communautaire. Ce qui n'était pas leur, ce qui, franchement, n'était pas leur, du tout leur intention, malgré le fait que Nietzsche a demandé plusieurs fois Lou en mariage et qu'elle a toujours refusé. Mais c'est une jeune fille qui refusait absolument le mariage. Ça faisait partie de son anticonformisme. Elle n'avait absolument pas envie de se livrer pied à pied à la domination d'un mari. Et donc, il n'était pas du tout dans cette perspective-là. Bref, la brouille est totale, ils ne se reverront plus, alors que c'est largement basé sur des malentendus. Et Nietzsche retourne à une solitude d'autant, évidemment, d'autant plus grave, d'autant plus pesante, qu'il a eu l'espoir d'autre chose. Il a eu l'espoir d'une amitié non seulement affective, mais philosophique, d'une amitié d'une affinité de pensée poussée à un degré très très élevé. Et voilà que tout s'écroule. Il retourne dans une solitude terrible, et c'est là qu'il écrit Zarathustra. Voilà, c'est pas pour rien. Hein, Zarathustra qui retourne meurtri dans sa montagne, enfin, toute cette magnifique thématique littéraire vient évidemment de cet épisode à la fois exaltant et extrêmement douloureux. J'arrête là sur les épisodes de la vie de Nietzsche, ben, le reste on l'a vu, hein, à partir de là, les années qui lui restent, il écrit beaucoup, il correspond un peu avec ses amis mais les voit peu, et on sait comment il termine sa vie. Je vais peut-être aujourd'hui vous parler un tout petit peu plus qu'une heure, puisque c'est la première séance, que j'ai fait une longue introduction, et qu'on n'a peut-être pas encore énormément de matière à discuter, donc mais vous m'arrêterez quand vous en avez assez. Donc là, je plonge dans son œuvre par d'abord l'introduction des considérations inactuelles. L'adjectif allemand pour inactuel, c'est Unzeitgemäß. Unzeitgemäß, donc vous reconnaissez le mot Zeit, le temps. Et donc on traduit aussi parfois inactuel par intempestif, tout aussi bien. Inactuel, intempestif, c'est une notion tout à fait centrale de la pensée de Nietzsche à ce moment-là. C'est une théorie générale qu'il énonce et qu'il détaille en quatre thématiques qui sont en fait liées, donc je vais en parler d'abord en général. Cette notion d'inactualité, elle caractérise, d'après Nietzsche, le vrai artiste ou le vrai philosophe. Il en parle conjointement, de l'artiste et du philosophe. Pour lui, la création artistique, la création intellectuelle de type philosophique, se fait dans les mêmes conditions, se fait aux mêmes conditions. Un vrai artiste, un vrai philosophe, c'est quelqu'un qui doit faire son œuvre contre son époque. Il ne peut pas être de son temps. En aucun cas, il ne peut refléter son temps, son époque. Bien sûr, il hérite d'une culture, et c'est très important. Nietzsche n'est pas quelqu'un qui refuse la culture, qui prône l'ignorance. Jamais de la vie, Nietzsche ne prône l'ignorance. Au contraire, Nietzsche pense qu'il faut avoir une éducation extrêmement poussée, un enseignement de toutes choses, mais un enseignement qui ne se contente pas d'être de l'érudition. Alors, à son époque, il peut critiquer l'érudition. À notre époque, c'est plus difficile, puisque l'air du temps est justement, s'est retourné. On en est, pour ainsi dire, à un éloge de l'ignorance. Non ? Donc, attention, il y a des choses qui ont tout de même changé. Si on veut être Nietzsche à notre époque, c'est pas l'érudition qu'il faut critiquer, c'est l'ignorance. Donc, Nietzsche pense que la culture est extrêmement importante, que c'est formidable qu'on puisse traverser des millénaires, hein, en quelques années d'apprentissage, et qu'on ne soit pas obligé de recommencer chaque fois toute l'histoire de l'humanité. Mais il pense que par rapport à cette culture, si on veut être un créateur, eh bien, on doit faire une certaine rupture, on doit s'y opposer. Alors on doit s'y opposer de manière différente en fonction de la médiocrité de la culture du moment. Plus la culture est jugée médiocre, évidemment, plus il faut rompre avec elle. Or, à son époque, Nietzsche estime que toutes les civilisations du globe sont entrés dans une terrible décadence. Le thème de la décadence est un thème qui le poursuit aussi jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire. Hein, c'est quand même aussi l'époque de Baudelaire, c'est l'époque de la décadence revendiquée par pas mal d'artistes. Mais lui, il déplore cette décadence de la civilisation. Il lui oppose systématiquement la jeune civilisation grecque, donc la civilisation grecque dans ses débuts, dans son extraordinaire éclosion, dans tous les domaines de la création artistique et intellectuelle. Il déplore évidemment qu'on ne puisse plus, qu'on soit dans une époque vieillie, qu'on ne puisse plus avoir la même créativité. Mais ce qui est inéluctable, parce que simplement l'histoire a avancé, on doit l'accepter. C'est-à-dire, on doit accepter qu'on vient après des millénaires de culture et qu'il est de plus en plus difficile de faire du nouveau. Ça, c'est pas ça qu'il déplore. Ce qu'il déplore, c'est le contentement de soi que peut avoir une époque, l'illusion dans laquelle elle vit qu'elle est encore une époque créatrice, alors même qu'elle n'a plus aucun style, plus aucune créativité propre, qu'elle ne fait plus que de l'éclectisme, qu'elle ne fait plus qu'aller chercher ailleurs tout ce qu'elle revendique comme culture. Il dit que c'est un modernisme bariolé, un bariolé. On va chercher toutes sortes de couleurs ailleurs, dans des civilisations passées ou d'autres continents. Donc effectivement, c'est une époque où on a une extraordinaire curiosité pour toutes les autres civilisations. C'est une époque où l'archéologie fait des découvertes magnifiques, où on s'ouvre sur toutes les civilisations du passé, où on déchiffre des tas de langues anciennes. C'est une époque de grande curiosité. Mais cette curiosité n'est pas de la création. Or, elle s'illusionne en pensant qu'elle l'est. Et Nietzsche crée une expression pour désigner le type de personne qui se croit cultivée, qui est contente de cette culture. Il l'appelle le philistin cultivé. Philistin, alors ça fait référence à, dans la Bible, une population adversaire des Hébreux, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il l'entend. C'était devenu à l'époque un terme péjoratif assez répandu pour désigner des gens qui ne s'intéressent qu'à des choses bassement matérielles, qui n'ont aucun goût pour les choses de l'esprit, hein, qui ne s'intéressent qu'à ce qui est utilitaire, qui ne voient que leur avantage immédiat et matériel. Donc ça, c'est le philistin. Alors évidemment, il y a une sorte de contradiction à lui adjoindre l'adjectif cultivé, puisqu'il est censé justement ne s'occuper que des choses bassement utilitaires et matérielles. Mais alors, pourquoi cultiver ? Eh bien justement parce que la culture est devenue quelque chose d'utilitaire. La culture est devenue un moyen de promotion sociale. Il faut montrer qu'on est cultivé, en tout cas qu'on connaît certaines choses qui sont valorisées socialement. Il faut se montrer au spectacle, il faut montrer qu'on est au courant de tout ce qui se fait, il faut montrer qu'on connaît tel et tel. Donc c'est une culture mondaine. Il dénonce cette culture mondaine qui domine son époque. Donc, un vrai artiste, un vrai philosophe ne se retrouve évidemment pas là-dedans. Il déteste tout conformisme, il déteste répéter, il déteste imiter. Il veut trouver sa propre voie. Et Nietzsche, notamment dans la troisième inactuelle, celle qui s'appelle Schopenhauer éducateur, Nietzsche dit à la fois ce que doit être un bon éducateur, un vrai éducateur, et il dit à la fois ce qu'il doit à Schopenhauer. Donc je vais détailler ces deux questions-là. Qu'est-ce qu'un bon éducateur pour Nietzsche, contrairement donc à tout cet enseignement érudit, qui était très répandu, et d'ailleurs de manière très démocratique déjà, dans l'Allemagne de Bismarck, à son époque. Un vrai éducateur, dit Nietzsche, c'est justement quelqu'un qui ne cherche pas à donner la même chose à tout le monde, qui ne cherche pas à uniformiser les connaissances et les apprentissages de tout le monde en déversant à tout le monde la même matière. Un vrai éducateur, c'est quelqu'un qui révèle chacun à son niveau, c'est-à-dire chacun comprend ce qu'il est, comprend ce à quoi il veut tendre, comprend ce qu'il veut devenir. Et Nietzsche a cette expression que vous connaissez peut-être, je pense qu'elle est devenue assez connue, assez célèbre, c'est « deviens ce que tu es », l'impératif « deviens ce que tu es ». Cet impératif ne veut pas du tout dire que les jeux seraient déjà faits à la naissance, qu'on n'aurait plus qu'à développer quelque chose qui est déjà depuis toujours présent en nous, qu'on aurait une sorte d'essence éternelle, de destin, qu'on n'aurait plus qu'à effectuer, mais qui serait déjà immuablement là, déterminé. C'est pas du tout ça. Ce qu'il faut devenir, et donc ce qu'on est vraiment, dit Nietzsche, ce n'est pas ce qu'on est déjà, c'est ce qu'on veut être. Elle dit voilà ce qui définit quelqu'un, ce qui est sa véritable essence, son essence, ce qu'il est vraiment, au-delà de toutes les illusions, de toutes les apparences, de toutes les façades. Ce que chacun est vraiment, c'est ce qu'il veut être, c'est ce à quoi il aspire. Et ce à quoi il aspire, dit Nietzsche, de plus élevé. Ce que tu es vraiment, dit-il, c'est ton aspiration la plus haute. Et le vrai éducateur doit révéler à chacun son ambition la plus haute, son ambition la plus exigeante, la plus élevée. Et il doit aider chacun à mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Donc chacun doit prendre conscience dans sa jeunesse de ce qu'il veut vraiment, mais de la manière la plus exigeante possible, et puis mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc on voit déjà une éthique de la construction de soi, bien sûr, et une éthique de l'effort et de la volonté pour se construire comme le plus grand, le meilleur possible. Or, l'époque n'est pas du tout à ça, l'époque de Nietzsche est au nivellement. Alors, pas seulement pour ces raisons de l'apprentissage généralisé, uniformisant, parce que le milieu scolaire est tel qu'on doit bien donner la même chose à tout le monde, c'est pas seulement pour cette raison-là, qui serait une raison objective, c'est aussi pour la raison que cette époque n'aime pas que quelqu'un excelle, que quelqu'un soit différent. Hein, cette époque n'aime pas les grands hommes, n'aime pas les génies, contrairement à d'autres époques qui ont pu exalter les génies, par exemple l'époque romantique, hein, peut-être même de manière excessive. Donc Nietzsche va prôner ce qu'il appelle un héroïsme de la véracité. Un héroïsme de la véracité. C'est-à-dire, pourquoi la véracité d'abord? Parce que cet impératif de devenir ce qu'on est, c'est-à-dire son inspiration la plus haute, c'est un impératif qui demande une très grande lucidité sur soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter trop vite de ce qu'on devient, il ne faut pas croire trop vite qu'on est arrivé la personne qu'on avait envie de construire. Il ne faut jamais se contenter, en fait. C'est une attitude où on n'est jamais content de soi. Ce n'est jamais suffisant, ce qu'on fait. Il y a toujours plus à développer. Hein, et c'est retrouver hein, ce Nietzsche toujours insatisfait, toujours à vouloir aller plus loin, à poursuivre l'effort de plus en plus tendu. Donc, la véracité, c'est cette lucidité, cette probité qu'on fait qu'on ne s'illusionne pas sur soi-même. On ne va pas se leurrer en se disant « je suis déjà arrivé ». Non, jamais. C'est impossible. Et pourquoi c'est un héroïsme? Ben, vous vous rendez bien compte de à quel point c'est dur, à quel point c'est difficile. Et en outre, on va très vite se trouver isolé, en but au reste de la société, parce que cet héroïsme, on va l'imposer aussi aux autres. Nietzsche dit, il ne faut surtout pas être gentil. Alors ça, c'est tout à fait contraire, évidemment, aussi à la bonne volonté de l'époque. Hein, à cette espèce d'humanisme altruiste qui régnait à l'époque. Non, il ne faut pas être gentil, parce que la gentillesse, c'est quoi? La gentillesse, c'est le fait d'excuser toutes les faiblesses. C'est le fait de relâcher justement les exigences, de ne pas demander trop à autrui, de le laisser dans sa paresse, dans sa rapidité à être content de soi. Non, ce qu'il faut, d'autant plus d'ailleurs, si on prétend être ami avec quelqu'un, c'est exiger de lui constamment plus d'efforts et être critique. Être méchant, dit Nietzsche. Mais cette méchanceté, c'est cette critique. C'est de dire, ce qu'on doit attendre d'un ami, ce n'est pas qu'il vous plaigne, qu'il vous console. C'est le contraire. Il ne doit jamais vous consoler. Il doit vous enfoncer. Il doit vous faire remarquer tous vos défauts qui vous restent encore à corriger. Bon, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Mais c'est à ce prix qu'on va réaliser son ambition. Et lui, il a cette ambition d'être un vrai philosophe. Et il s'impose toute sa vie ce prix. Alors, une autre exigence, et puis j'en passerai à Schopenhauer, une autre exigence pour devenir un vrai philosophe, c'est aussi de ne pas être dépendant, de n'être dépendant, dit Nietzsche, ni de l'État, ni d'une institution, on pense à l'université, ni de conditions matérielles. Alors, les conditions matérielles, comme je vous l'ai dit, un petit peu par chance, il a résolu la question grâce à cette petite allocation qu'il lui a versée pour sa maladie. Nietzsche est bien conscient que tout le monde ne peut pas résoudre le problème de cette façon-là, et dit, mais c'est à chacun de trouver une manière de répondre à ses besoins en y consacrant le moins de temps possible. Il dit, si on n'a pas trois quarts de son temps pour soi, on est un esclave. Trois quarts de son temps pour soi. Donc, il reste un quart de temps pour subvenir aux besoins matériels indispensables à la survie, à la subsistance. Mais ces besoins, dit-il, il faut évidemment avant tout agir pour les diminuer au maximum, pour que justement on ait le moins possible besoin d'assurer sa subsistance. et ça implique par exemple de ne pas avoir de famille. Hors de question de commencer à se charger d'enfants. Et... Non, ça c'est pas possible. Il faut choisir. Il faut choisir. Ou bien vous voulez créer, hein, ou bien vous enchaînez à une famille, etc. Comme disait Cicéron, libri hoc liberi, hein, des livres ou des enfants. Alors, on peut essayer de contredire, on peut essayer de s'insurger contre ça, mais on n'est pas des génies non plus. Enfin, je veux dire. Nous, peut-être qu'essayons de concilier le tout, on n'atteint pas les sommets qu'il a atteints. Hein. Faut être conscient aussi de ça. Donc il faut se libérer donc, des contraintes matérielles, retrouver une extrême frugalité, et bien sûr, vous avez ici l'inspiration des cyniques antiques, hein, des cyniques grecs, Diogène de Sinope, qui vivait avec le moins possible, la plus grande frugalité possible, selon l'adage, ne pas posséder pour ne pas être possédé. Dès qu'on possède, on est possédé par la crainte de perdre, par le... Alors, à côté de ça, ne pas être dépendant d'une institution universitaire ni de l'État. Et les deux sont d'ailleurs liés pour Nietzsche, parce qu'il faut dire qu'en Allemagne, les universités ont été très tôt des universités d'État, des universités publiques, donc les professeurs payés comme fonctionnaires. Or, en Nietzsche, tout État ne crée des universités que pour former des gens qui vont le servir. Hein, que pour former des gens qui vont le servir, c'est-à-dire des gens qui répondront aux fonctions utilitaires dont l'État a besoin. L'État a besoin d'ingénieurs, de médecins, de juristes, l'État a besoin de personnes dévouées avant tout à l'État et prêtes à le servir avec toutes les connaissances, toute la formation qu'on va leur donner. L'État ne paye pas des professeurs pour former des personnes qui seront indépendantes et critiques. Bon. Je laisse faire les conclusions sur ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Donc le philosophe qui veut être libre, qui veut vraiment créer librement, ne peut pas être entretenu par ce système, parce que nécessairement le système va lui demander des concessions, il va lui demander des contreparties. Et d'autre part, une philosophie de professeur, dit Nietzsche, ne peut pas être une philosophie vraiment créatrice. Une philosophie de professeur, c'est une philosophie qui va s'arrêter au seuil de la vraie philosophie. C'est-à-dire, elle pourra être préparatrice à une vraie pensée. Ce sera une philosophie historique d'abord. On commence par, évidemment, apprendre toute une série de systèmes philosophiques qui ont précédé avant de soi-même créer. Donc ce sera une philosophie historique. Une philosophie, selon Nietzsche, qui va devenir très vite sceptique. Pourquoi très vite sceptique ? Ben parce que, qu'est-ce qu'on enseigne ? En fait, on juxtapose toute une série de conceptions philosophiques différentes. Hein, on vous dit, voilà ce qu'un tel a pensé, un tel, on a mis comme ça des noms, quelques concepts attachés à chaque nom. Voilà, ça, c'est l'enseignement historique de la philosophie. Et puis, par cette comparaison de toute une série de systèmes qui se contredisent les uns les autres et qui se critiquent les uns les autres, on aboutit à quoi ? Une espèce de découragement, hein, une espèce de découragement pour celui qui entend ça et qui se dit, mais... On peut dire tellement de choses différentes. Tout ont des arguments pour, des arguments contre. Finalement, est-ce que ça vaut la peine de chercher à les différencier ? Est-ce que ça vaut la peine de chercher lequel est le plus valable à notre sens ? On va vers la même chose que dans l'érudition en histoire ou dans l'érudition dans une autre discipline, on va vers une sorte de tout se vaut. On ne peut pas décider. Hein. L'érudition tue la pensée. Vraiment, c'est ce qu'il pense. L'érudition tue la pensée. Donc il ne faut pas se contenter d'être professeur d'université, parce que malheureusement, cette discipline-là, cet exercice-là, empêche de poursuivre la pensée. Donc voilà comment le philosophe doit en plus être indépendant. Et je vous fais remarquer que Nietzsche a réussi à se rendre totalement indépendant. Il a réussi à répondre effectivement dans sa propre vie à l'ensemble de ses exigences. En partie un peu à son corps défendant, mais n'empêche. Alors maintenant, sur l'influence de Schopenhauer. Pourquoi est-ce que Schopenhauer a été un bon éducateur ? Schopenhauer, c'est un philosophe qui est mort en 1860, et donc que Nietzsche n'a pas connu directement, que Nietzsche n'a jamais eu pour professeur, mais c'est en lisant l'ouvrage principal de Schopenhauer, qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation », C'est en lisant cet ouvrage que Nietzsche a pris conscience de cette idée qu'il voulait être quelque chose lui-même et qu'il voulait se donner les moyens de le devenir. Donc toute cette idée de formation de soi, de manière totalement individuelle et propre à lui-même, il a trouvé la stimulation dans l'ouvrage de Schopenhauer. Et effectivement, dans toute son introduction, Schopenhauer parle de la même chose. Il parle de l'indépendance du philosophe. Il parle de la véracité, de la recherche de la vérité, sans se soucier aucunement de l'opinion des contemporains, sans se soucier aucunement du succès qu'on remporte quand on essaye de publier, sans se soucier du succès de ses cours. Alors il faut vous dire que le pauvre Schopenhauer, en fait, donnait cours dans l'auditoire juste à côté de celui de Hegel, et que tous les étudiants étaient chez Hegel et personne chez lui. Signe des temps, je veux dire, l'époque était mûre pour entendre un Hegel, elle n'était pas mûre pour entendre une philosophie comme celle de Schopenhauer. Venons-en à cette philosophie. Pourquoi est-ce que ça a servi aussi de détonateur chez Nietzsche pour se délivrer de certaines illusions métaphysiques ou philosophiques qu'il avait encore, et pour choisir de s'engager dans cette voie, d'y aller plus loin. Donc la philosophie de Schopenhauer, c'est, pour le dire en résumé quand même, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est une philosophie qui repose d'abord sur la distinction kantienne essentielle entre phénomène et chose en soi. Donc il faut que je vous dise un petit mot de cette distinction entre phénomène et chose en soi. Ça se trouve dans la critique de la raison pure de Kant. Cette distinction, qu'est-ce que c'est? En fait, dit Kant, tous les objets dont nous pouvons avoir une expérience, tous les objets du monde que nous pouvons connaître, que ce soit par notre sensibilité, nos cinq sens, ou par notre entendement, c'est-à-dire notre intelligence, notre compréhension des choses, tout ce dont nous pouvons avoir une connaissance quelconque. Tous ces objets sont en fait des phénomènes. Phénomène veut dire, étymologiquement, ce qui apparaît. Ce sont toutes des choses qui nous apparaissent. Elles nous apparaissent. Et forcément, il faut que nous ayons des récepteurs pour qu'elles nous parviennent, pour qu'elles parviennent à notre conscience. Ces récepteurs sont les sens et sont aussi ce que Kant appelle les catégories de l'entendement, c'est-à-dire des sortes de structures de compréhension qui font que nous pouvons appréhender différents phénomènes. Je vous donne un exemple de structure de telle structure de compréhension. Par exemple, la relation de causalité. Nous ne pouvons pas comprendre un phénomène naturel sans cette structure de causalité. Nous avons tout le temps besoin de savoir pourquoi quelque chose se passe comme ça se passe. Nous cherchons justement la cause. Pourquoi telle réaction chimique a lieu, nous cherchons la cause. Toute notre compréhension des choses repose notamment sur cette structure. Il y en a d'autres qui sont proposées par Kant. Les catégories d'entendement, ça comprend aussi tout simplement la distinction entre existant, possible et nécessaire. Nous avons besoin de savoir pour connaître scientifiquement, et c'est bien la science qui est en jeu aussi, pour connaître scientifiquement, nous avons besoin de savoir si un phénomène observé est existant d'abord, c'est-à-dire est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est une illusion due à d'autres choses. Est-ce que c'est nécessaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça ne peut pas se passer autrement, ou pour d'autres phénomènes, nous pouvons nous demander s'ils sont simplement possibles. Donc ça aussi, dit Kant, ce sont des structures, si vous voulez, que nous appliquons aux choses, mais que nous ne pouvons pas constater par elles, qui ne nous viennent pas d'elles directement. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les choses qu'il y a la structure, l'opposition possible, existant, nécessaire. C'est seulement dans notre entendement, seulement dans notre pensée. Donc, tout ce que nous comprenons de cette manière, que nous connaissons scientifiquement, ou que nous connaissons de manière plus spontanée, plus ordinaire, tout ça, ce sont des phénomènes. Alors, c'est quoi la chose en soi? Est-ce qu'on n'a pas épuisé tout le réel comme ça, de cette manière-là? Eh bien, la chose en soi, c'est justement ce qui ne peut par définition pas être connu de nous, par définition, parce que c'est justement ce qui ne nous apparaît pas, ce qui ne nous apparaît selon aucun mode d'apparition, ni par les sens, ni par des structures explicatives, ni par la pensée. Ça ne nous apparaît d'aucune manière. Or, il faut supposer que ça existe. Parce que, pourquoi est-ce qu'il n'existerait dans le monde que des choses telles qu'elles nous apparaissent? Nous savons bien que nos sens, par exemple, sont limités. Nous savons aussi que notre intelligence est limitée. Mais nous pouvons aussi penser que, en plus, chaque chose est en elle-même peut-être différente de ce que nous voyons d'elle, de ce que nous comprenons d'elle. C'est juste quelque chose que nous ne pouvons pas prouver. Nous ne pouvons prouver ni qu'elle est différente, ni qu'elle est égale à ce que nous voyons d'elle, à ce que nous comprenons d'elle. La chose en soi, on ne peut ni prouver qu'elle est la même, qu'elle se réduit au phénomène, à ce qui nous apparaît, ni prouver qu'elle est complètement autre chose. On ne peut absolument rien en dire. Mais on doit quand même supposer qu'elle existe. D'accord ? Parce que c'est vraiment une opposition, une nécessité, en fait. Hein, que si ce que nous connaissons, c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent, bah, les choses, elles sont aussi, indépendamment de nous, elles sont aussi quelque chose. Parce que sinon, ça reviendrait à dire que les choses ne sont que ce que nous voyons d'elles, hein, que ce que nous percevons d'elles. Ce qui est une sorte de délire subjectif, c'est-à-dire comme si le sujet créait entièrement le monde. Donc voilà pour la théorie kantienne. Alors, qu'est-ce que Schopenhauer en fait ? Et après j'arrive. Qu'est-ce que Schopenhauer en fait ? Alors, il la transcende quand même. Il part totalement de l'idée de phénomène. Il la répète, bon, nous ne connaissons du monde que les phénomènes. Mais il ajoute ceci. La chose en soi, lui, il ne veut plus qu'elle soit simplement ce qui apparaît comme une sorte de, vous voyez, de nécessité, hein, que même maintenant, même les scientifiques doivent reconnaître. Hein, ils ne font de science que des phénomènes. La chose en soi, dit Schopenhauer, en fait, si, on peut savoir ce qu'elle est. On peut reconstituer ce qu'elle est. Et comment est-ce qu'il propose de la reconstituer ? Il propose de la reconstituer à partir de l'expérience de l'individu lui-même, de l'expérience d'un sujet, qui fait une différence entre ce qu'il est comme phénomène et ce qu'il est comme chose en soi. Donc, chacun pour soi, nous pouvons nous demander que suis-je comme phénomène et que suis-je comme chose en soi. Que suis-je comme phénomène ? Ben, c'est facile, mon corps, j'en ai une connaissance phénoménale. Je le vois, hein, je le sens, je le perçois par la sensibilité, je le comprends ben, par l'explication scientifique qu'on peut m'apprendre, y compris l'expérience intérieure, hein, y compris l'intérieur du corps, que je peux sentir aussi et qui est différent évidemment de la perception que peut en avoir autrui, mais tout ça c'est du domaine du phénomène. Mais, dit Schopenhauer, nous avons aussi une connaissance immédiate, hein, donc qui n'est pas construite, une connaissance immédiate d'un autre aspect de nous-mêmes, qui est, dit-il, la volonté. Nous savons que nous avons une volonté, nous savons ce que c'est immédiatement que notre volonté. Et par volonté, il entend quelque chose de très large. Il entend le fait qu'à tout moment, nous voulons quelque chose. Donc il faut mettre ici en volonté tout ce qui est désir, tendance, besoin, voilà, instinctement tout ça. Hein, que ce soit une volonté pensée, rationnelle, étudiée, ou que ce soit une impulsion, un instinct, peu importe. Donc tout ça, c'est à tout moment, nous sommes en train de tendre vers quelque chose, nous voulons, précipitons, enfin nous nous préparons à une action. Donc à tout moment, nous sommes volonté. Et ça, nous en avons une expérience immédiate, puisque c'est ce qui nous permet de dire « je enfin, ». C'est un peu une forme de transposition du cogito cartésien. Hein. Que dit Descartes ?« Je pense donc je suis », ça veut dire quoi ?« Il se passe quelque chose en moi. Je ne sais pas encore ce que je suis moi, mais il se passe quelque chose. » Et quel que soit ce quelque chose qui se passe, il y a une activité dans mon cerveau. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est encore un cerveau, mais il y a une activité qui se passe, puisque je dis... Hein. Puisqu'il y a une idée, il suffit qu'il y ait une idée quelconque, que ce soit une idée vraie, une idée fausse, que ce soit une hallucination, une illusion, une sensation, peu importe, il se passe quelque chose. Donc il existe quelque chose. Il se passe quelque chose, donc il existe quelque chose. Et voilà, la volonté joue un peu ce rôle chez Schopenhauer, donc la volonté comme expression de soi. J'existe, ça veut dire j'ai une tendance. Je veux quelque chose, hein, je suis tendu vers quelque chose, je me prépare à une activité, à une action pour avoir quelque chose. Donc cette volonté, dit Schopenhauer, eh bien, en nous, c'est la chose en soi. Pour chacun de nous, ça c'est la chose en soi, qui est corollaire du phénomène de notre corporealité, hein, de tout ce qui est phénoménal, de tout ce qui apparaît. C'est bien le même côté. Cette volonté, c'est la chose en soi. Alors, on peut se demander pourquoi il dit ça. Il y a toute une longue justification qui, évidemment, prête le flanc à beaucoup de critiques. D'ailleurs, Nietzsche va la critiquer. Ensuite, la deuxième opération de Schopenhauer, c'est de projeter ça aussi sur l'ensemble du monde, puisque l'ensemble du monde est phénomène, est phénoménal, est phénomène. C'est ce qu'il appelle la représentation. Dans son titre, le monde comme volonté, comme représentation, le terme phénomène est rendu par représentation. Le monde phénoménal, c'est d'abord de la représentation. Nous nous représentons le monde, hein, nous nous représentons les objets à la manière kantienne, hein, à partir de nos structures sensorielles, compréhensives, etc. Nous nous représentons le monde. Mais, dit-il, de la même manière qu'il y a en nous autre chose que de la représentation, qu'il y a aussi en nous cette volonté, cet élan, eh bien, il y a aussi ça dans le monde, dans sa totalité, hein, dans tout l'univers, il y a aussi ça dans toute chose qui existe, il y a aussi ça. Et c'est là aussi la chose en soi. C'est là aussi la chose en soi du monde. Ou la vérité du monde, l'essence du monde. L'essence, ce qu'il est vraiment. Ici, il y a une opposition que ne faisait pas Kant. Hein. Kant ne disait pas que la chose en soi est l'essence du phénomène. Mais Schopenhauer vient. Donc la chose en soi, c'est l'essence de l'apparence. Hein, d'un côté, il y a l'apparence, et de l'autre côté, il y a l'essence, donc ce que c'est vraiment. Et cette volonté, avec un grand V cette fois, hein, pour montrer qu'elle est cosmique, c'est une même tendance générale de tout ce qui existe, pas seulement le vivant, mais même le non-vivant, à exister. Cette tendance à exister, à se maintenir dans l'existence. Et pour tout ce qui est vivant, on l'appellera le vouloir vivre. Il l'appelle le vouloir vivre. C'est cette tendance à vouloir vivre, à vouloir se maintenir dans la vie. Or, dit-il, la vie, c'est un énorme cycle. La vie, mais aussi, l'existence non-vivante, l'existence minérale aussi, est dans un cycle d'apparition et de destruction. Donc, tout ce qui existe est dans un énorme cycle d'apparition et de destruction. Et la volonté, c'est l'expression à la fois des forces créatrices, des forces qui font apparaître de nouvelles choses ou de nouveaux vivants, mais aussi l'expression des forces destructrices qui, inéluctablement, doivent détruire une partie des choses pour que les autres puissent apparaître. Hein, c'est la destruction des uns rend possible l'apparition des autres, que ce soit des vivants ou des non-vivants. Et il y rejoint par là une autre influence très importante sur sa philosophie, qui est celle de la philosophie indienne, hein, de la philosophie des Vedanta. Cette notion que le même Dieu est à la fois le Dieu créateur et le Dieu destructeur. La même roue est celle de l'apparition et puis de la mort. Alors Schopenhauer dit, mais il se fait aussi que dans cette existence vouée à la destruction, tout ce qui ressent du plaisir, tout vivant qui peut ressentir du plaisir à la vie, ne ressent en fait qu'un plaisir extrêmement temporaire parce qu'il va être, il va y être mis fin par la mort, mais puis d'abord par la maladie, la souffrance. Et puis surtout, ce plaisir n'existe qu'en tant qu'il existe un besoin, un désir. Le plaisir n'est là que comme satisfaction du désir et comme suppression provisoire du besoin. Si on a du plaisir, c'est seulement parce qu'on a satisfait un besoin ou un désir. Et donc, en fait, on est sans cesse relancé vers de nouveaux besoins et de nouveaux désirs. Et ça de manière inéluctable, de manière incessante. Donc on est dans une, finalement, dans dominer, non pas par le bonheur, mais dominer par le malheur, dominer par le manque, dominer par l'insatisfaction. C'est ça notre moteur, c'est toujours l'insatisfaction. Tout ce qu'on fait, c'est à cause de l'insatisfaction. Sinon, on ne serait pas tout le temps à vouloir quelque chose. Toute notre activité, tout ce qu'on peut déployer, en fait, quelle qu'elle soit, de quel type que ce soit, c'est toujours avec comme moteur une insatisfaction, un manque, un besoin. Donc en fait, notre condition, c'est une condition malheureuse. Et c'est la condition de tout ce qui existe, c'est une condition malheureuse. Vous avez là vraiment une interprétation extrêmement pessimiste de l'existence. Qui ne plaît pas à Nietzsche d'ailleurs. Il faut bien vous dire que quand il dit qu'il est influencé par Schopenhauer, il a quand même certaines réserves, et notamment là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il va insister d'ailleurs de manière très très importante par la suite, sur le fait qu'il ne partage pas du tout cette interprétation de la vie. Il dit il refuse les calomniateurs de la vie. Ça, c'est vraiment une calomnie contre la vie. Il s'insurge contre le fait qu'au contraire, ce qui est premier, c'est l'affirmation, c'est la joie, c'est la création, c'est premier sur la souffrance. Bon, on y reviendra parce que ça fait partie de tout le monde, d'abord du Dionysiaque, qu'on verra la semaine prochaine, et puis aussi de l'éternel retour, hein, comme ça se fait que l'éternel repose. Ça doit nous apporter une joie et pas une souffrance. Bon, il n'en reste pas moins que Nietzsche est influencé par Schopenhauer simplement parce que Schopenhauer ouvre les yeux sur certaines choses, hein, fait ouvrir les yeux sur certaines choses, c'est-à-dire rend plus lucide sur certaines choses. Dans une époque où il faut garder à l'esprit que c'est une époque d'idéalisme, de profond idéalisme, enfin, ces années, cette deuxième moitié du 19e siècle. Idéalisme au sens où on pense que les progrès de la science vont réaliser, vont entraîner des progrès dans tous les autres domaines aussi. Et donc on va pouvoir avoir, par exemple, un progrès moral, y compris malgré la disparition progressive de la foi religieuse, qui en était la garantie jusque-là. Les progrès de la science vont aussi faire mieux comprendre toutes sortes de nécessités sociales et que donc on va résoudre les problèmes sociaux, les problèmes des guerres, les problèmes des conflits, les problèmes des inégalités. Enfin, on a une espèce d'optimisme basé sur le positivisme en fait, hein, basé sur le positivisme scientifique, sur la foi en la connaissance, la foi en le progrès. Et Nietzsche dit, attendez, allez lire Schopenhauer. Allez lire Schopenhauer et puis redites-moi si vous osez encore dire que voilà, tout va s'arranger, simplement parce qu'on a la connaissance. Il dit, attention à la connaissance scientifique, oui, elle est valable. Oui, il est vrai que nous pouvons avoir toutes sortes de cohérences, nous pouvons construire toute une cohérence dans la connaissance des phénomènes, c'est tout à fait vrai. Mais n'oubliez pas que ce ne sont jamais que des phénomènes aussi. Et puis quand vous pensez à la volonté, demandez-vous ce que c'est de volonté, ce que c'est que cet élan qui prend toujours à la fois la forme destructrice et la forme créatrice. Donc voilà pour cette influence dans les premières œuvres de Nietzsche. Et je vais encore ajouter une toute petite chose, si je peux, pour la cohérence quand même du propos. Une autre influence tout à fait importante sur Nietzsche à cette époque, c'est celle de Wagner. Et la quatrième inactuelle, elle est dédiée à Wagner. C'est une époque où Nietzsche fréquente la famille Wagner et tout son entourage. Il assiste aux représentations à Bayreuth, etc. Et donc, il estime que... il pense que Wagner va apporter le renouveau dans la musique qui est nécessaire, mais pas seulement dans la musique au sens simplement esthétique, mais en tant que, par la musique, on atteint le plus profond de la dimension, la dimension la plus profonde de l'être humain. Et que donc ça va être un renouveau anthropologique complet grâce à la musique de Wagner. Bon, alors après, toute l'histoire justement de ses relations avec Wagner montre un renversement total par rapport à son admiration première. Alors en partie parce qu'il pense que Wagner a changé, que son œuvre change, que Wagner devient de plus en plus religieux, hein, de plus en plus chrétien, de plus en plus ascétique, donc tout ce que Nietzsche fait, mais aussi, et donc c'est plus du tout le musicien Dionysiaque qu'il avait cru au départ, mais aussi parce que Nietzsche se rend compte qu'il a été un petit peu illusionné lui-même, Donc c'est une époque où Nietzsche pense que Wagner, pour faire le lien avec la position d'inactuel, il pense que Wagner devrait être un inactuel dans son époque, puisqu'il est vraiment un génie et un réformateur musical. Donc il devrait ne pas être en accord, ne pas être accepté par son époque. Or il se fait que Wagner a beaucoup de succès. Donc comment l'expliquer? Alors Nietzsche propose que, en fait, Wagner a beaucoup de succès auprès d'un certain public qui lui aussi a rompu avec le conformisme de son époque. Donc il y aurait tout un public privilégié, toute une frange de gens qui aurait été capable, qui serait capable de se détacher des valeurs vieillies, des vieilles normes en art et puis dans tout ce qui touche à l'art, toutes les conséquences de l'art, et que donc l'inactualité serait partagée par un certain nombre de personnes. Bon, après, là aussi, il considérera ça comme une illusion totale qui s'était faite à l'époque, et en fait, il se rend compte en fait, très très vite, en assistant justement aux représentations à Bayreuth, que la plupart du public, ces fameux philistins cultivés, ce sont ces fameux mondains qui ont besoin d'être eux-mêmes en représentation. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas directement justement à la profondeur musicale ou à la profondeur intellectuelle qu'on peut en tirer, mais pour lesquels c'est un spectacle, une réjouissance et une fonction sociale. Donc, il garde encore à cette époque quelques petites illusions qui vont très vite disparaître. Voilà, je vous remercie et maintenant je...
Voltaire. Mais je vais y revenir, mais je peux déjà déjà tout de même anticipé pour vous répondre. Il admire beaucoup Voltaire pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que Nietzsche, comme je l'ai dit, il a une exigence très importante, inséparable du contenu sur le style. Et il trouve que Voltaire écrit admirablement bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il a une sorte de rejet viscéral de tout ce qui est mal écrit. Il déteste notamment Hegel à cause de son expression jargonnante. Pas faux. Enfin, dans les mots, il n'a pas toute valeur au contenu, mais pour lui. Donc, d'abord, sa capacité d'expression, et puis surtout parce que c'est surtout dans Le Maître Romain, il fait une opposition entre deux tendances des Lumières par rapport à la politique, sur la question politique et donc sur la question de la Révolution. Hein, donc, leur manière d'avoir préparé la Révolution française. Et donc, il oppose Voltaire et Rousseau. Plus tous ceux qui gravitaient autour, hein, qui avaient ces deux positions opposées. Et pour lui, Voltaire avait une position gradualiste, une position à long terme, une position non radicale et non excessive du changement qui devait mener à la Révolution. C'est un changement lent qui veut préparer en profondeur les mentalités avant de provoquer un grand éclatement violent qui va tout détruire. Alors qu'il lui semble que Rousseau, au contraire, appelle à un renversement rapide, à court terme, alors qu'il n'a pas vérifié si la préparation était faite. Donc c'est surtout sur la question politique qu'ils ont. Alors d'autre part, il a été aussi très influencé par les matérialistes qui se revendiquent le plus du matérialisme, donc d'Holbach et Helvétius. Hein, ces deux-là qui ont ramené, en fait, toutes les activités humaines à des processus physiologiques. Et qui estimait vraiment que la matière explique absolument tout. Alors, d'une manière qu'on peut rapprocher d'un certain courant, par exemple, des neurosciences actuelles, où, voilà, le fait de rapporter tout à la matière et de penser que toute la vie de la pensée peut être ramenée simplement à des réactions chimiques. Alors, très influencé par ça, toujours pour la même raison, hein, puisque dans cette période, dans cette deuxième période, il cherche à faire une étude scientifique de tous les sentiments moraux. Donc pour lui, un sentiment moral, c'est jamais qu'une réaction chimique. Après, il va être beaucoup plus scientifique. Il va être beaucoup plus scientifique. C'est un peu c'est pas que c'est faux, mais je veux dire, entre la réaction chimique et le sentiment moral, ben, il y a tout un processus, il y a toute une transformation culturelle, il y a toujours d'autres choses qui entrent en jeu, donc même s'il n'est pas faux qu'il y ait un support matériel d'un certain type qui est une condition absolument nécessaire, ça ne veut pas dire que tout est dit une fois qu'on a dit ça. Mais il ne suffit pas d'avoir la tête sur les épaules pour que les sentiments soient libres.
Au moment où tu dis parle de cette exigence de Nietzsche, de n'être dépendant ni de l'État ni des institutions, et de l'impossible des contraintes matérielles, je ne sais pas, tout à coup je me suis dit, mais il y a eu au 19e, au 20e siècle, surtout au début, des gens qui s'appelaient les intellectualistes libertaires. Et qui ont dit à peu près ça aussi, et qui ont essayé de le mettre en application également.
Non, c'est un rapprochement qui évidemment s'impose, quoi. Et donc vraiment important de le signaler parce que il y a même eu un bouquin qui a rapproché Nietzsche et Stirner. Hein. Il y a un bouquin qui fait une enquête sur une influence de Stirner sur Nietzsche. Donc Stirner, c'est celui qui a écrit L'unique et sa propriété. C'est un essai qui développe toute une théorie absolument radicale de l'individu comme devant constamment s'imposer contre la société, contre l'empiètement que les autres constamment imposent à l'individu, contre la... les influences que les autres cherchent sans cesse à lui faire subir, et donc pour retrouver son individualité intacte. Bon, et Stirner est considéré comme un des théoriciens de l'anarchisme ou de la pensée libertaire, mais en ce sens très théorique, pas du tout dans un sens pratique de théorie de la révolution, en ce sens très théorique de l'individualisme. Et c'est vrai que l'individualisme de Nietzsche, il est très clair. Nietzsche, c'est un individualiste, mais je vous ai dit en quel sens. Pas du tout dans le sens péjoratif qu'on utilise souvent actuellement, donc pas du tout dans le sens du repli sur une sorte de confort personnel, l'égoïsme. Donc ça, c'est pas du tout dans ce sens-là, même s'il défend l'égoïsme, mais c'est encore pour une autre raison. Mais c'est clair que c'est un individualiste, puisqu'il fait tout le temps appel au fait de se trouver soi-même, de s'imposer comme selon sa pensée propre, ses désirs propres, sa volonté propre. En opposition à cet égalitarisme social qu'on tend à imposer à tout le monde. Égalitarisme, donc, encore une fois, où tout le monde devrait penser à la même chose, devrait se réaliser de la même façon, où on pense que faire le bien social, c'est faire le même bien à tout le monde. Nietzsche insurge contre ça. Le bien social, ça n'a pas de sens pour lui parce que chacun veut un bien différent. Vous ne pouvez pas faire le bien de tout le monde en même temps. Si vous faites le bien de certains, vous ferez le mal de d'autres avec les mêmes choses. Les personnes n'ont pas tous besoin de la même chose. Bon, donc tout ça, c'est les racines de l'individualisme. Et c'est vrai que c'est parfaitement rapproché, je dirais, et Nietzsche sur ce point théorique. Et il faut dire que les milieux libres du début du XXe siècle, les milieux individualistes, se réclamaient beaucoup de Nietzsche. Ils se sont effectivement beaucoup intéressés à Nietzsche. Et c'est intéressant, évidemment, cet apport qui a tempéré le côté très social, syndical de la lutte révolutionnaire. La synthèse des deux a fait quelque chose qui évite justement toute une théorie des masses, des masses indistinctes, en fait, de tous les défauts qu'on a pu dénoncer dans la psychologie des foules. Le fait que toujours il y a cette idée, attention, je participe effectivement à un mouvement syndical, à un mouvement social, mais en tant qu'individu. Mes propres raisons, en gardant mon propre regard, ma propre distance, ma propre évaluation des choses. Voilà, cette synthèse, je pense, du social, quand même, d'une certaine unité, d'une certaine collaboration, d'une certaine connivence ou solidarité sociale, et de cette position toujours individualiste, je crois que c'est une force de l'anarchie.
Et puis à l'expérimentation, dans la question des livres, il me semble que ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette idée que, bon, on a des idées, d'accord, alors on va voir si on est capable de les vivre. Et si on faisait encore ça maintenant, je crois que ça améliore beaucoup de choses. Parce qu'au fond, ce qui m'avait frappé, je ne sais même plus le nom du livre, je l'ai lu il y a très très longtemps, c'était un anarchiste, il expliquait comment on allait faire la révolution. Et petit à petit, les étapes, il y en a d'autres qui appellent ça. Et lui, c'est que tout en masse. Puis le monde n'est plus tout à fait le même. Et puis à quoi ça sert de préparer? Parce que les gens aussi vont être différents. Et puis est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Et ça, je trouve que c'est une grave question. C'est que je la pose toujours quand j'entends parler de l'évolution. Je dis, est-ce que tout le monde est une grande majorité prête à le faire? Et encore, que fera-t-on de la minorité? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autorité, on fait la violence. Donc,
ça aussi, c'est une attitude qui est spanichienne, le fait de dire tout ce que je pense, il faut que je l'applique tout de suite. Il faut que je l'applique dans ma propre vie. C'est le minimum de cohérence requise, c'est que si je pense qu'il faut faire quelque chose, je le fais. Donc ça, c'est effectivement, c'est tout à fait conforme aussi à cette pensée.
C'est qu'il est sûr d'avoir raison dans sa logique.
Alors ça, oui, je vois bien pourquoi je dis ça, c'est-à-dire que pour l'appliquer, évidemment, il faut se dire que ça vaut la peine de l'appliquer. Nietzsche, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais été sûr d'avoir raison, par contre. C'est-à-dire qu'il a souvent, il dit, mais là aussi j'anticipe sur quelque chose qui apparaît plus explicitement dans l'humain contre l'humain, mais il dit justement que la philosophie ou même la recherche scientifique, c'est une quête de la vérité, il ne faut pas escamoter l'idée de vérité, mais c'est une quête sans fin. Une quête sans fin. On n'arrivera jamais, on ne pourra jamais se dire maintenant on a tout. On a tout compris, on a tout atteint. Jamais. C'est une quête sans fin, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Par exemple, il y a un progrès de la pensée, on peut s'approcher de quelque chose de mieux, on peut se dire, voilà, ça c'est mieux que ça. Donc on va vers ce qui est mieux, ce qui va être mieux. Mais ce ne sera jamais atteint, on n'aura jamais un objectif qui est atteint. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais une totale certitude non plus d'être dans la vérité. Donc on n'est pas toujours sûr non plus d'avoir raison. Mais c'est-à-dire que, alors Nietzsche c'est aussi quelqu'un, ça c'est son rapport au scepticisme. Ce qu'il n'aime pas dans le scepticisme, c'est le fait de suspendre son jugement. C'est-à-dire l'attitude de quelqu'un qui dirait « je ne peux pas être sûr, hein, je n'ai peut-être pas raison, je n'ai peut-être pas tous les éléments pour juger, donc je ne fais rien. Donc je ne décide pas, je ne fais rien. » Et cette passivité qui est au fond une facilité, ça il la refuse absolument. Par contre, ce qu'il aime bien dans le scepticisme, c'est son côté mordant. C'est-à-dire c'est quand le scepticisme attaque tous les systèmes. Il dit « qu'est-ce que vous racontez là, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, pourquoi vous pouvez proposer cette affirmation dogmatique ?» Mais voilà, mais mis à part, donc, ça, la suspension du jugement, ça lui paraît vraiment une lâcheté. Donc, il dit qu'il faut chaque fois s'engager, parce qu'il faut agir, il faut poser des valeurs, il faut agir. Donc, il faut s'engager à tout moment, mais être toujours prêt à s'engager différemment, là, sans arrêt.
L'intérêt de Nietzsche par rapport aux autres philosophes qui ont une vision plus, qui se base plus sur la reproduction de l'être par la société, par ce qu'il produit aussi. Ce que produit chacun détermine la façon d'être de chacun. Est-ce que justement, c'est ce qui est intéressant, moi, il me semble qu'il y a une complémentarité qui n'a peut-être pas été faite entre, par exemple, la recherche des philosophes sociaux et puis Nietzsche, quoi, qui insiste plus sur le côté, justement, cette possibilité de dépasser certains déterminismes, quoi. Et que parfois, des philosophes plus sociaux ont été tentés de tout déterminer par justement le côté social. Quoi. Je ne sais pas si.
Mais en fait, sa remarque, elle me permet d'anticiper encore sur quelque chose qu'on va développer plus tard, parce que c'est pas simple du tout chez Nietzsche. Parce que là, je vous ai dit, dans la construction de soi, la volonté, l'effort, etc. Et en même temps, Nietzsche va longuement s'opposer à l'existence même du libre-arbitre, de ce qu'on a appelé traditionnellement le libre-arbitre, donc justement la volonté libre, le fait de pouvoir décider de ses gestes sans être déterminé. Il s'oppose à l'existence. C'est une contradiction apparente qui est apparente parce que depuis lors on essaye de la surmonter. il donne des pistes pour la surmonter, mais c'est une grosse contradiction. Parce que lui était parfaitement convaincu justement des déterminismes sociaux, de l'influence prépondérante de la société sur l'individu. Il était parfaitement convaincu de ça. Et en même temps, il tient ce discours jusqu'au bout, hein, pas seulement dans sa première période, en même temps, il tient jusqu'au bout ce discours de l'individualisme. Donc c'est justement cet équilibre, c'est ça qu'il faudra chercher. Et je vais essayer de le chercher aussi dans son œuvre. Comment résoudre cette idée que, cette affirmation qui revient si souvent, cette démonstration même chez lui, qu'il n'y a pas de volonté libre, qu'il n'y a que du déterminisme social, en partie naturel, et en partie biologique et en partie social, et pourtant, il faut poser les valeurs, et c'est un acte volontaire. Donc, ouais, ça demande vraiment un développement. Mais c'est sûr que c'est une question qui n'est pas résolue. Hein. Encore une fois, ben voilà, on a peut-être progressé sur ces questions, mais on n'est pas au bout, on ne sera jamais au bout. Il y aura tout le temps la tension, à maintenir. Il y a plus d'autres remarques, on peut arrêter pour ce soir. Donc la semaine prochaine, on va aborder toute l'influence grecque et la notion de Dieu.
Merci.